Good afternoon, everyone. My name is Ashley DeMartini. I'm going to be presenting the, well, I will be moderating the last panel. I am pleased to introduce to you to this panel here, composed of McGill Law and Education graduate students. I'm going to begin by introducing you to Yannick Touchette. He is a master's student with a research focus in provincial legislation on cyberbullying. For the past 2 years, he's been focused on this field. Then I have to his left Alyssa Wiseman. She's a law and MBA student. She focuses her research on how moral development informs law, as well as how to best develop educational programs that promote legal literacy. And then to the left of Alyssa, there is Nima Naimi. He is a law student, and his focus is on the legal vacuum of cyberbullying. And finally, but of course not least, we have Arzina Zaver, and she is a PhD student in the Department of Integrated Studies of Education, and her interests and research focus includes teacher identity in the context of state neutrality. So we will begin today with Yannick.
Thank you, Ashley. So very briefly, I'll begin today with, I'll focus on actually two bills, one in Quebec, one in Nova Scotia. I'll switch to French, but if at the end of the presentation, well, of my part of the presentation, you have some questions, because I wasn't clear, I can answer all the questions quite easily. So, switching to French. The slides are in English, but I'll be presenting in French. Donc, pour la mise en contexte de notre présentation, de notre panel, on établit un peu un continuum dans le type de législation qui sont mises en place, de législation provinciale qui sont mises en place au Canada depuis environ 2 ans, qui généralement amende les lois sur l'éducation, soit publique ou soit privée. Les lois semblent s'établir sur un spectre un peu plus éducatif ou un peu plus réactif. Je l'ai placé sur un spectre gauche-droite où à la gauche on a justement les projets de loi qui visent une approche un peu plus éducative, un peu plus égalitaire. Égalité en sens de contribution sociale à l'éducation des jeunes en matière d'intimidation et de cyberintimidation, une approche moins purement légale. Puis à droite, on a un peu plus les projets de loi ou les nouvelles lois mises en place qui visent une approche un peu plus justement légale, un peu plus forte, où malheureusement, il y a un plus grand risque de judiciarisation des jeunes par la suite. Je présente 2 projets de loi en particulier, mais aucun d'eux n'est soit complètement en gauche ou soit complètement en droite. Ils se promènent toujours un peu plus vers le centre. Le premier projet de loi dont je voulais parler, c'est le projet de loi 56 qui a été sanctionné l'an dernier par le gouvernement du Québec, qui amendait autant la loi sur l'instruction publique que la loi sur les établissements d'enseignement privé. Le projet de loi n'est certainement pas parfait en matière d'éducation. Par contre, lorsqu'on compare la première et la deuxième version du projet de loi, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites pour tenter en partie de s'éloigner des politiques de tolérance zéro pour essayer d'aller un peu plus vers une approche éducative envers les jeunes, c'est-à-dire que même si toutes les écoles doivent, par exemple, instaurer des plans d'action visant à contrer et à prévenir et à combattre la violence et l'intimidation à l'école, on encourage l'approche dans laquelle ces plans-là sont mis en place, entre autres avec les élèves, les adolescents en même temps. Donc, on prend en considération leur propre contribution. Aussi, on vise de façon assez large la mise en place d'un environnement sécuritaire à l'école. Et cet environnement-là, sécuritaire à l'école, vise tout ce qui est fait en dehors de l'établissement. Donc, il y a ici deux envers de la médaille, si on veut, où maintenant les éducateurs, les administrateurs scolaires sont en mesure d'intervenir lorsque de la cyberintimidation justement se produit et qu'elle a un impact dans le milieu scolaire. Par contre, de l'autre côté, ils se retrouvent un peu dépourvus, comme le docteur, la professeure Sharif l'expliquait plus tôt aujourd'hui. Ils peuvent se retrouver un peu plus dépourvus parce qu'ils deviennent responsables de ce qui se passe aussi à la maison, lorsque ce qui se passe à la maison a un impact dans la salle de classe. Donc, ils ont un peu plus d'outils, mais en même temps, ils ont plus de responsabilités pour lesquelles ils ne sont pas nécessairement formés en ce moment. Donc, les dispositions principales du projet de loi sont entrées en vigueur seulement le 31 décembre 2012. Donc, on n'a toujours pas une année de recul pour voir comment le tout va être mis en place, mais les dispositions sont là quand même, tout de même pour encourager une approche éducative à la prévention de la cyberintimidation. On définit maintenant de façon légale qu'est-ce que l'intimidation et la violence. Puis dans l'intimidation, dans le gouvernement québécois, il est allé quand même d'une définition pas trop large où il doit y avoir un rapport de force, il doit y avoir une répétition dans les actions commises. Puis on inclut aussi dans tout ça justement tout type de comportement qui a lieu, y compris avec des supports technologiques. Donc, comme j'expliquais, ça donne plus de pouvoir un peu aux éducateurs, mais en même temps, il faudra voir comment on assemble la compréhension autant des éducateurs que des adolescents sur les comportements en ligne, parce que même si maintenant ça a été légiféré, il manque tout de même l'aspect éducatif. Après quelques mois, c'est encore un peu tôt pour l'évaluer de façon appropriée. Puis ça donne aussi la chance aux commissions scolaires maintenant. Dans la première version, on parlait beaucoup d'une alliance avec les corps policiers pour s'assurer de prévenir la violence et l'intimidation à l'école. Maintenant, on a plutôt ajouté, on encourage les commissions scolaires à plutôt s'associer à des associations communautaires pour justement avoir une approche un peu plus préventive que réactive envers les jeunes. Puis on a aussi inclus le meilleur intérêt de l'élève dans les interventions et les interactions avec autant les victimes d'intimidation que les auteurs d'actes d'intimidation et de cyberintimidation. C'est-à-dire que si on décide de sévir sur un étudiant, autant pour ce qui est de le suspendre ou de l'exclure de l'école, il faut toujours prendre en considération son meilleur intérêt avant de décider de la sanction qui sera imposée, si sanction il y a. Puis également, on doit prendre le meilleur intérêt de l'élève en considération pour la victime d'intimidation également. C'est-à-dire que on n'intervient pas de façon uniforme avec les élèves intimidés. Si le sujet de l'intimidation est particulier, il faut qu'il y ait une intervention modelée pour l'élève, c'est-à-dire que on va pas simplement appeler ses parents, lui dire que l'élève a été intimidé, puis c'est la fin de la journée. Si l'élève ne veut pas nécessairement que ses parents soient informés pour une raison particulière dès le départ, ben il faudra tout d'abord prendre en considération pourquoi. Qu'est-ce qui est dans son meilleur intérêt, puis justement discuter avec l'élève avant d'agir. Donc, dans cette optique-là, le projet de loi, les amendements québécois qui ont été faits en matière d'intimidation et de cyberintimidation sont un peu plus progressistes, plus préventifs. De l'autre côté, on a ce qui a été fait en Nouvelle-Écosse. Le projet de loi a été abordé un peu plus tôt d'ailleurs par la professeure Van Praa sur la cybersécurité. Dans cette optique, le projet de loi est beaucoup plus réactif, si on veut, pas nécessairement répressif, mais plus réactif, en ce sens que on donne les outils nécessaires aux écoles et à la province surtout. Pour pour enquêter de façon beaucoup plus aisée sur la cyberintimidation. On met sur pied, en fait, une unité spéciale d'enquête sur la cyberintimidation qui peut être contactée de façon anonyme, qui peut obtenir une ordonnance préventive de la Cour sans en aviser l'auteur présumé d'actes de cyberintimidation, c'est-à-dire qu'on peut obtenir une ordonnance de la Cour lui interdisant d'utiliser certaines technologies dans certaines balises si nécessaire, avant même qu'une enquête soit mise sur pied. Par la suite, si enquête il y a, la victime peut obtenir une ordonnance de protection qui est définie de façon très large dans la loi, donc qui peut restreindre énormément l'utilisation technologique des jeunes qui sont reconnus comme coupables d'actes de cyberintimidation, et surtout s'il y a violation de cette ordonnance, ben on a des dispositions qui permettent plus facilement la judiciarisation, en ce sens que si cette ordonnance n'est pas respectée, la loi prévoit pour la première infraction de non-respect de l'ordonnance une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $, puis une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois. Ça, c'est si on ne respecte pas l'ordonnance. Puis il y a aussi des dispositions qui facilitent la criminalisation du comportement des jeunes dans cette optique-là. Puis également, une autre « innovation » entre guillemets du projet de loi, c'est que maintenant, comme la professeure Van Praa expliquait plus tôt, les parents peuvent être tenus responsables des gestes de leurs enfants, mais en fait peuvent être perçus comme étant le cyber-intimidateur si, de façon raisonnable et responsable, ils pouvaient avoir conscience des gestes de leur adolescent et n'ont pas nécessairement directement intervenu. Donc, ils peuvent devenir eux-mêmes des cyber-intimidateurs pour les gestes qui ont été commis par leurs enfants. Puis, dans la loi, il existe en fait très peu ou pas vraiment de dispositions discutant de l'aspect éducatif du problème social, du problème de comportement qu'est la cyber-intimidation et non pas qui n'est pas un comportement justement purement criminel qui doit être judiciarisé. Donc, on évite une partie de la question pour avoir une approche un peu plus « tough on crime », si on veut. Puis, justement, ça fait suite un peu à un projet de loi, un autre projet de loi qui avait été mis sur pied l'an dernier, mais qu'on ne jugeait toujours pas suffisant dans la prévention de la cyberintimidation, qui est le projet de loi 30, qui est assez large. J'ai mis la définition ici d'une des dispositions. J'ai ajouté une des dispositions ici en anglais, qui parle en fait d'un comportement, je l'ai pas en français, mais disruptive behavior and severely disruptive behavior, including incidents of cyberbullying. On définit très peu qu'est-ce que ce disruptive behavior en particulier. Puis la loi sur la cybersécurité a été rédigée en conséquence de l'existence aussi du projet de loi 30. Donc, il y a ici une approche qui est justement très large, qui est très peu restreinte, puis qui est beaucoup plus réactive que préventive. Puis, rapidement, avant de passer la parole à Alissa, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, le projet de loi canadien qui doit être déposé en fait dans à peu près une heure, vers 15h45, sur l'amendement du code criminel pour inclure notamment tout partage de photos intimes non consentant comme étant un acte criminel. La question qui reste justement à se poser, pour laquelle on aura peut-être un peu plus d'informations dans une heure, c'est le ministre McKay promet depuis le mois de septembre d'avoir une approche holistique à la cyberintimidation. Oui, on veut amender le code criminel, mais dans la même optique, dans le même projet de loi, on est supposé avoir des dispositions qui seront plus axées sur l'éducation, sur l'intervention sociale. Par contre, malheureusement, pour l'instant, on n'a toujours aucune information claire à ce sujet-là. Puis, c'est un des aspects qui peut être très néfaste dans l'approche plus criminalisée qu'on a présentement. Puis, Alissa puis beaucoup Nima vont y revenir beaucoup plus sur l'approche criminelle plus tard dans la présentation.